Güneş sevinirim.
Ama ikisi birbirine çok geçmiş bir şey. Hani Kadıköylü olmanın da bir üstünde...
Oh, Mesika. So, when did you get to Istanbul?
Il n'y a pas de chance avec le temps à Istanbul, hein?
Non, mais là, c'est...
Istanbul, behind me.
All the time, really?
Yeah.
Hola.
Hola. Sorry, çünkü her seferinde iyimizi, bizi... ...anlatmak değil de, söyleşi yöre yönlendirmek gibi falan.
Nous avons une question au top, comme on dit. Qu'est-ce qu'il pense sur visibilité et invisibilité?
Görünmez İstanbul. Valla gösterilmek istenilmeyen İstanbul aslında. İstanbul'un çoğunu kapsayan ama gösterilmek istenmeyen ötekilerin İstanbul'u.
Invisible, visible. Pourquoi?
Tabii ki. Onlarla
Galata'da bu arada konuşacağız. Şansımız var, isimleriz. Geçiz efendim. Matin. Matin. Matin. Oui, parce que
j'ai les amis de France. Oui, oui, c'est vrai.
Le jeudi matin.
Non, non, mais eux.
Donc, je m'entends. Donc, pas jeudi. Et pour l'instant, j'ai le mardi ouvert, mais on sait jamais si
Pierrot... Bouquin par... C'est quoi?
Demain matin.
C'est
quand? Demain
après-midi.
Demain après-midi.
Attends.
Tu peux lancer quand même.
Silence. Silence.
À partir de 18h.
Silence. Même avant. S'il vous plaît.
Fakir kuş hiç unutmaz. Ustaları ölmüş oğlan çocukları. Denizden çıkınca birbirlerinin saçlarını tararlardı. Ah, karpuzun içindeki kesmece delikanlım İstanbul. Yine utanarak saklıyor ve çürümüş çiçek kokuyorsun. Okuma parçası bir kentin üstünde kara güvercinler uçuşuyor.
Silence. Ça tourne.
Qu'est-ce que ça représente pour toi si je te parle des invisibilités à Istanbul?
Herkese sorduğumuz soruyu gitmeden önce sana da sormak istiyorum diyor. İstanbul'un görünmeyenleri, görünmeyenlerinden bahsedersek senin için, senin aklına gelen ilk şey nedir? Senin için ne ifade ediyor?
Bence aklıma başka bir şey geldi. Görünmemek istiyorsan hep kalabalıkta ol derler.
On dit que si tu veux être invisible, il faut toujours être au milieu de la foule.
Çok kalabalık.
Donc Istanbul c'est un des meilleurs endroits pour être invisible.
Yani yanınızdan kimin geçtiğine dönüp soramazsınız da. Yani bir metafor tabii. Mesela burası şehrin en kalabalık yeri ama en görünmez yeri.
Mais vous pouvez jamais demander à la personne qui passe à côté de vous qui il est, vous pouvez jamais le savoir, vous pouvez jamais lui demander. C'est une métaphore, mais ici c'est le centre de la ville et c'est un des endroits le plus nombreux de la ville, mais en même temps c'est un des endroits le plus invisible de la ville.
Ben Hüseyin Karabey, film yönetmeniyim.
Je suis Hüseyin Karabey, j'ai fait des documentaires, film documentaire longtemps. Et là, j'ai fait un long métrage aussi. Je suis en train de travailler sur mon deuxième long métrage.
Şu anda Küçük Pazar'dayız. Semt Küçük Pazar ismi. Sirkeci, Unkopan'ı, Süleymaniye'nin ortası.
On est à Küçük Pazar, qui veut dire le petit marché, c'est le nom de quartier. On est au milieu de Sirkeci, Unkopan'ı et Süleymaniye.
Burası ne özelliği? Burada
la raison pour laquelle on est ici et notre spécialité de quartier, c'est ici on trouve la maison des jeunes ouvriers qui sont là pour décorturer les ouvriers sans papier, les ouvriers hors l'économie. Et les maisons qu'on va visiter maintenant, c'est là-bas qu'ils vivent des dizaines et des dizaines les uns sur les autres dans des conditions assez difficiles.
Ayrıca son dönemde
ces dernières années on a un autre phénomène, c'est des Africains et des gens de l'Asie extrême qui sont là, des immigrants qui sont là de passage, qui attendent de pouvoir partir en Europe et en attendant c'est les conditions qu'ils acceptent.
Buraya biz yarımada diyoruz. Aslında İstanbul'un Yani en eski yerleşim birimi burası.
On est en fait dans le vrai centre historique d'Istanbul, dans le quartier de Sultanahmet et les alentours. On est sur le demi-île de qui ce qu'on appelle historiquement Istanbul. Donc c'était des quartiers qui n'étaient pas vraiment habités depuis très longtemps. Et il y avait beaucoup d'ateliers, beaucoup de jeux, des ateliers souterrains même. Et maintenant avec les nouveaux projets, comme ils ont fait à Sulukule par exemple, les quartiers vont être soit démolis, soit renouvelés, mais les habitants de ces quartiers vont être petit à petit effacés. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain, ça va durer au moins 10 ans.
Bayram ben, Adıyaman'dayım.
Le Bayram de Adıyaman, de l'Est de Turquie.
Vous habitez ici depuis longtemps ? 22 senedir.
22 ans.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Ne iş yapıyorsunuz ?
Gıda, bakkal.
Épicier.
17 sene biz de bekar evinde yaşadık burada, o yüzden yani.
Ici, il a vécu dans des foyers de célibataires pendant 17 ans. Et après, il a commencé à faire un autre travail.
Tabii daha önce kalabalıktı işte bu.
Avant il y avait beaucoup plus des foyers. C'était le centre des maisons des foyers des célibataires, mais ce n'est plus. Maintenant il y en a de moins en moins.
İstanbul'un göbeği burası.
Ici c'est le centre de Istanbul et de même de l'Empire Ottoman, donc ça va être un changement pour lui, un changement positif, assez positif. Siz ne iş yapıyorsunuz?
Ben demir doğramacıyım.
Les découpeurs de fer.
Kapı, evet. Genellikle işte çekçek arabalar yapıyoruz.
Là, ce qu'il a dans les mains, c'est une porte, mais souvent on fait plus des petites cartes, des petites.
Kağıt toplama arabaları yapıyoruz.
Pour les ramasseurs de papier. Surtout dans c'est autour d'ici qu'on fait les petits trucs pour les ramasseurs de papier.
Tabii yani adam orada yük taşıyor yani ağır yükler taşıyor. Tahta araba yapanlar var. Demir araba yapanlar var. Genellikle hep yani şey seyahat satıcı, ondan sonra kağıt toplama arabaları, yük taşıma arabaları bunlar.
On fait plus pour les vendeurs de rue et les ramasseurs de papier, mais c'est que des gens qui portent donc des choses assez lourdes, donc on doit tous faire des trucs résistants. Il est de Bingöl, il habite à Balat, qui n'est pas très loin d'ici, mais il n'habite pas dans le quartier. Il raconte que dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de plus autant de monde, plus autant de familles qui vivent, et plus autant de lieux de travail non plus, parce que les grands fabricants sont renvoyés un peu plus loin, parce que maintenant, c'est que des tout petits ateliers qui sont par là. Les gens sont... les grands producteurs ne sont plus du tout ici. Mais ni les maisons. C'est, tout ça, c'est à cause de nouveaux projets de rénovation de quartier.
Salep, istersen.
Tu veux un chai?
Non, salep, c'est un truc sucré, très
mou.
On goûte?
Salep.
Let me buy you, ok?
Versene salep.
Salep.
Bizim işler... Yani sezonluktur bazen, öyle diyeyim. Mesela ilkbaharda köyden gelenler mesela biraz yani çalışmaya su olsun, ondan sonra meşrubat, o tür şeyler sattığı zaman biraz canlanıyor. Kışında pek o kadar canlı değil yani. Tamir işleri, ondan sonra ufak tefek işler.
On travaille plus vers le printemps, vers l'été, parce que c'est les gens qui viennent des villages et qui font les petits travaux de vendeurs de l'eau, des légumes, etc. Donc à cette période-là, on a beaucoup de ventes, mais on n'en a pas du tout en hiver. On fait plutôt des réparations.
C'est bon.
C'est très bon.
Ah, c'est super bon.
C'est salep.
Salep.
Salep, oui.
Hayır. Eskiden de vardı, şimdi de var ama... Eski dönem iş yeri daha çoktu. Esnaf daha çoktu.
Le plus grand changement, il y avait avant et maintenant, il y a toujours eu les foyers des célibataires, mais il y a de moins en moins de travail dans le quartier.
Başka bir semtten gittiği zaman sanki bir gurbete çıkmış oluyorum. Yani buraya geldim daha ferahlıyorum. Daha hani buraya alıştık hani. İlk İstanbul'a geldiği zaman buraya yerleştik hani.
Moi, je me suis habituée à ce quartier. Donc, quand je sors, je change de quartier, je me sens comme si j'étais immigrée à nouveau, j'étais plus chez moi. Donc, je me sens bien ici. Et c'est pour ça qu'il est, il a continué à habiter ici, il a insisté pour rester ici.
Quand vous êtes arrivé ici, vous êtes venu pour rester ici ou vous pensiez partir et finalement vous êtes resté?
Je suis venu effectivement avec une idée de rester pour une courte durée, mais je ne sais pas si c'est le temps, le climat ou l'ambiance de la ville. Je n'ai pas pu rentrer, je n'ai pas voulu rentrer, donc il est resté.
J'adore ça. On dirait qu'il y a de la vanille ou...
Non, pas de la vanille. L'arôme vient de la racine d'orchidée.
Şimdi önceki yönetim, yani bundan önce AK Parti'nin önce ana vatan vardı.
Quand je suis arrivé ici, on disait que tous les ateliers vont déménager d'ici, vont aller en dehors de la ville, dans les banlieues. Mais tout ce qui s'est passé, c'est, voilà, il dit, c'est tout doucement, mais tout le changement, c'est comme maintenant, c'est pas un énorme changement.
Alors ici, la particularité de ce quartier aussi, c'est d'être un peu un quartier d'affaires. C'est pas un quartier résidentiel, c'est un quartier d'affaires, de commerce, de business. Si j'ai bien compris, tous ces travailleurs sont un peu la main d'œuvre pour tout ce pôle commercial.
Ici, c'est effectivement, on est au centre, un peu au centre de beaucoup de quartiers de business et de commerce et de travail. Et en même temps, il n'y a pas d'habitants. Normalement, la nuit, il n'y a pas un seul citoyen au sens propre, au sens figuré. Et on a que les gens, et ces gens-là, qui sont hors les papiers, les sans-papiers, et qui on les laisse en la vie et pour les autres la nuit. Et donc, c'est une forme d'accord secret, un contrat secret qu'on a fait. Et ils sont là, ils sont pas loin du centre. Donc, ça aussi, c'est une des raisons économiques aussi, parce que comme ça, ils n'ont pas à payer des allers-retours ni rien. Et ça fait partie de. Pour lui, c'est un des lieux qui représente le mieux l'hypocrisie de la ville. Beaucoup de gens qui habitent dans des quartiers, genre Cihangir Taksim, ne sont pas au courant qu'il y ait 100 000 habitants dans ce quartier.
Benim adım Babür Ahmet, dayı oğlu Gil. Aslen memleketim Konya. Konyalıyım. Fakat İstanbul'da oturuyoruz.
Il s'appelle Ahmet Babür, Babür Ahmet, dayı oğlu Gil. Il est d'origine de Konya, une ville au centre de la Turquie. Et il habite à Istanbul depuis très longtemps, mais il a aussi de la famille à Konya. Ici, nous sommes dans son office maintenant, dans son bureau. Et nous sommes dans le quartier de Küçük Pazar encore, qui est à Unkapanı, qui est à Fatih, plus exactement. Et nous sommes dans la rue de Sokanı neydi? Hacı Kadın. Et numéro 18. Et ils ont renouvelé ce bâtiment qui était la maison d'un pacha. Qui est un bâtiment historique du deuxième degré, donc l'extérieur est fait 100% comme c'était avant, mais pas l'intérieur.
Aynı yapılmaması yapılacak diye bir garanti mecburiyeti olmadığı için yapmıştık.
J'aimerais avoir votre opinion sur ce réaménagement qui va se faire. Et qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement, si c'est bien, si c'est pas bien?
Bence bunun değişimin
gerekli. Je pense avant tout que c'était un changement nécessaire et un changement qui va apporter beaucoup de valeur en quartier.
Eski tarihi yani Osmanlı.
Ce quartier a plus de valeur historique que les alentours de Sultanahmet, alors que Sultanahmet a beaucoup de valeur maintenant. C'est déjà c'est les touristes, les étrangers qui viennent visiter ici. Ils vont pas venir voir des gratte-ciels, mais ils vont venir plutôt pour voir tout ce qui est historique. magnifique, surtout les, comme les réservoirs d'eau, et on est au bord de la Corne d'Or, et c'est des quartiers qui méritent. Et aussi, ça va nettoyer, il dit, il y a beaucoup de clandestinage dans le quartier. Ce qu'il dit, qu'il y a des gens, des drogués, des plus les habitations de ces gens-là vont être détruites, moins il y aura de ce genre de problème dans le quartier.
Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être demain. Et vous avez répondu.
Ah, j'ai
une histoire. Tu veux que plus İstanbul Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde özellikle soydaştırma üzerine çalışıyor ve dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılar da İstanbul periferilerinde
İstanbul.
Gentrifikasyon üzerine, soyulaştırma üzerine geziler yapıyor. Aynı zamanda Galatasaray'da da profesör.
Ouais, c'est un département de l'IFEA, l'Institut français d'études en atelier.
Il paraît qu'il est baroudeur, c'est un pote de Christine Breton.
Moi, j'aimerais bien ne pas quitter Istanbul sans être allé un peu vers l'extérieur.
J'adore me balader.
Pérouse 1, sur la gentrification.
Je pense qu'il faut distinguer hein, les deux processus, hein, ce dont vous parlez pour les années 20-30, mais jusqu'aux années 60, hein, et même 70, même 80, hein, quand on regarde les histoires de quartiers. 64, hein, c'est une date importante, c'est le départ de 30 000 rooms, parallèlement hein, aux violences à Chypre. Hein, et ceux qui font les frais de ces affrontements hein, à Chypre, ce sont les rooms d'ici hein, qui sont sommés de choisir. C'est-à-dire ceux qui avaient à la fois un passeport grec et un passeport turc sont sommés de choisir. Et ceux qui ne veulent pas rendre leur passeport grec doivent dégager. Donc c'est 30 000 personnes qui partent. Et en fait, là, le quartier où on se trouve, par exemple, a été très, très affecté à cette date. Hein. Ça, c'est bon, de l'ingénierie démographique, pourrait-on dire, liée à la construction d'un État-nation, liée à un changement de classe dirigeante. Bref, ces violences hein, très fortes, le passage d'un régime multi-ethnique, multi-confessionnel à un régime mono-ethnique, mono-confessionnel, avec ce fantasme de la nation, enfin, une langue, une religion, un drapeau, etc. Bon, la gentrification, à mon avis, ça relève d'un autre processus. Et là, vous avez raison, le milieu des années 80, hein, c'est assez juste pour Istanbul. Ben, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les années Özal, hein, Turgut Özal, donc le président du retour à la démocratie, hein, qui va ouvrir la Turquie aux investissements étrangers et qui va orienter le développement de l'économie turque sur les exportations. Et donc, on va voir apparaître hein, ce qu'on appelle les barons de Özal, hein, c'est-à-dire toute une série de nouveaux riches là, qui vont venir. Alors ici, on est très bien là, au cœur de Galata, hein, on est bien situé pour faire cette historique. En 86, c'est l'apparition du premier appart-hôtel. Hein, et c'est donc la réorientation hein, progressive, de Galata, le réinvestissement de Galata par l'économie touristique. Et en fait, la gentrification, si on se réfère aux théories sociologiques anglaises dans les années 60, eh bien, la gentrification en Turquie, elle est un peu différente dans la mesure où elle est très liée quand même au tourisme. Ce n'est pas seulement hein, le retour ou l'implantation enfin, de classes plus aisées que les classes qui sont chassées. Bon. C'est deux phénomènes. C'est aussi la touristification, voire la muséification. Hein, les deux sont liés. Donc, c'est la gentrification à la turca, pourrait-on dire, hein, qui associe ces deux phénomènes, et c'est donc l'installation à Galata d'étrangers, l'installation de couples mixtes ou de Turcs qui ont vécu à l'étranger, hein, qui vont être les pionniers, et ça, Tolga Islam le montre très bien, les pionniers de ce processus qui s'est accéléré avec, comme vous l'avez très bien dit, la stabilité, enfin, la chute de l'inflation hein, et la stabilisation donc, depuis le début des années 2000, et la confirmation d'Istanbul comme nouvelle place d'investissement immobilier à une échelle internationale.
Galata'da karşılaşabileceğimiz bir diğer soylaştırma örneği de dikey olanıdır. Bir binadan sosyal bir kesit alırsak mesela, benim de yakından bildiğim şu anda içerisinde bulunduğumuz bina gibi,
Bir binayı örnek alalım. Galata'da hali hazırda bir katmanlaşmanın varlığından bahsedebiliriz.
On voit très très bien Galata. On a un phénomène en fait de gentrification mais qui est sur la verticale. Quand on regarde un peu, faut faire une coupe sociale, vous voyez, à l'échelle d'un immeuble, on continue à Galata à avoir une stratification. C'est-à-dire que maintenant, c'est un immeuble que je connais assez bien, on a un chef d'orchestre italien qui habite au dernier étage avec terrasse, en dessous un architecte turc qui a une amie anglaise ou australienne, je ne sais plus, en dessous des classes moyennes supérieures turques, et puis quand on va tout en bas, on a encore des gens de Sirte qui travaillent au Grand Bazar, et donc il y a cette particularité, hein, qui fait qu'on n'a pas de phénomène homogène, et on a ce lien avec le développement de l'économie touristique et la muséification, la touristification. Dernière chose qu'on a constatée, c'était une prédilection des gentrifiers, hein, pour les quartiers anciennement habités par des minoritaires.
Gözünüze çarpan son şey ise soylaştıranların tercihlerini çoğunlukla eskiden azınlıkların yaşadığı mahallelerden yana kullanmalarıdır.
Ya İstanbul'un eksiği yok. Fazlalığı var.
Hello everybody.
Anne.
Radyo yaptık, açık radyo yaptık, değil mi?
Merhabalar.
Merhaba.
Merhaba. 94. O da projesi.
Tamam. Bir kuşlar aynı ötüyorlar. Değişmiş. It's like a decor.
Ode projesi est un projet, un collectif des artistes.
Seçil Yersel, Özge Açıkkol, Güneş Savaş.
Les trois artistes, les trois femmes qui sont à l'initiative de ce projet.
Ne haber? Neredesiniz? Bak buradayız.
Oda projesi 97 yılında gayri resmi olarak bir araya geldik. 2000 yılında Oda projesi adını aldık. Bir sanatçı kolektifiyiz.
Le projet a commencé en 1997. Entre 2000 et 2005, elles étaient basées à Galata, dans cette même rue, à Charcot Sokak. Mais depuis 2005, elles ont, c'est plus un projet itinéraire, elles n'ont plus une base nulle part.
Entre 2000 et 2005, Oda Projesi développe un certain nombre de projets dont bon nombre d'entre eux sont en lien avec le voisinage du quartier ici à Galata, dans une approche participative de l'art. Pourquoi est-ce qu'elles ont choisi cette démarche et puis comment ça se passait concrètement avec les habitants ?
Yani şimdi zaten buradaysak bunu yapmamız gerekiyordu. Başka bir şey yapamazdık zaten. Biraz aslında yukarıdan aşağıya indiğimiz zaman da gördüğümüz bir şey oldu. Yani en üst kattaydık, bir binanın en üst katından.
Ce qu'elle dit, c'est qu'elle pouvait pas faire autrement en fait. C'est un peu, encore une fois, une obligation un peu proposée par l'espace, par le lieu. Effectivement, leur position est faite en sorte que on peut pas fermer nos portes et tourner notre dos. C'est des endroits assez visibles partout, yani, toute la cour.
Olarak da, üretim olarak da böyle bir şeye meyilli değildik. Ve aslında yine kendiliğinden başladı bu oluşum. Öncesi o 3 sene çocuklarla ve kadınlarla, yani mahalleden çocuklarla ve kadınlarla birlikte, yani tanışıyor olmak, işte etrafa ufak geziler yapıyor olmak.
Et le fait que ce soit une cour aussi, ça renforçait la relation. Yani, donc elles étaient déjà en relation avant de commencer le projet. Elles connaissaient c'est déjà les habitants du quartier, donc ça facilitait le travail aussi.
Biz sanatçıyız, işte burası da bir sergi mekanı, işte burada biz projeler yapacağız, siz de izleyicisiniz demedik.
Donc au bout de tout ça, elle ne pouvait pas faire autrement que de créer et faire des choses ensemble.
Bir sanatçı, bir mimar, farklı disiplinlerden insanları da projelere dahil ettik.
Quand elles ont commencé à rentrer dans une pratique comme ça, elles ne se sont jamais présentées comme nous sommes des artistes et vous êtes des spectateurs. Donc il n'y avait jamais une ligne entre les gens, donc ça s'est passé assez naturellement. Il y a eu d'autres artistes, pas que les habitants. Il y a toujours eu des gens qui ont participé à tous leurs projets, des artistes, d'autres artistes dans d'autres domaines. Donc c'était toujours un collectif.
Radio yaptık, açık radio yaptık, değil mi?
Annenin hırka giydirsin üstüne.
Ya, bir şey olmaz.
Tamam, ana ben bir yer gezmeye gideceğiz.
Oda projesi.
Oda projesi diye katılımcı gruplar içerisinde en pasif olanı. Sen ne düşünüyorsun?
Sen ne saçmalıyorsun be?
Yani bu işte evden dedim bak. Evden çıkartılacağımızı öğrendiğimiz zaman tam o döneme gene denk gelen, aslında denklikler burada tabii projede çok önemli oldu. Mathieu Prat buradaydı, bir Fransız bir sanatçı ve o da işte radyoya merakı olan birisi ve böyle bir takım radyolar kuran birisi.
Quand elles ont appris qu'elles allaient virer de leur maison, de leur petite trois chambres. En même temps, il y avait un artiste français, Mathieu Prat, et qui était là. Et donc, à l'époque, il était plus dirigé vers l'idée des performances sur la radio. Et donc, il a proposé qu'ils fassent ensemble une radio de la cour de Haut-de-Projet. Donc, ça a commencé comme ça.
Yayını yapmaya başladık. Kanalda arada bir işte şey bulduk, 101.7 FM.
İçinde yaşandıkça orası mahallelenir. Mimarlar oturup da mahalle yapamazlar yani. Mimarlar mahalle yapamaz.
Evet, merhaba. Merhaba, merhaba.
bir aralık bulduk. Kimseye tabii haber, izin falan öyle bir şey yok. Sadece radyo avluda dinlenebiliyor.
Elles ont se sont servi de la cour pour ça et elles ont trouvé une bande qui était vide. Il y a eu aucune demande officielle ni rien. Tout est assez seulement pour la cour. À l'intérieur de la cour, on pouvait seulement capter.
Şeye çağırıyorduk, mekana çağırıyorduk. Şimdi hani komşulara gidin evde radyoyu dinleyin demeye başladık. Ne vardı? Devam edeyim mi? Yani program olarak belki sen araya şey yap.
Ne yazmışım burada? Burayı okuyabilir misin?
C'était 101,7 FM. Et c'était...
Mahallecek buradayız.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Le changement qu'il y a eu, c'est qu'elles ont commencé à faire des petites flyers et elles ont invité les gens à venir avec leur petite radio dans la cour pour pouvoir écouter ou venir dans le lieu où la diffusion était faite parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et avant, elles disent on invitait les gens de rentrer dans notre espace, mais maintenant on leur disait aux voisins allez chez vous et écoutez la radio.
Şimdi ne yapıyorsunuz?
Aslında şeyi denemek istedik biraz da, fiziki mekanımızdan ayrılırken radyo bizim yeni mekanımız olabilir mi diye düşündük. Yani mantık olarak da radyonun işlemesi, dolayısıyla biz ona mesela mahalle radyosu demedik. Yani o bir mahalle radyosu olsun da istemedik. Hani mahallenin sesi gibi bir şey olsun istemedik.
C'était pas seulement un projet de radio, c'était aussi l'essai de utiliser espace de la radio comme est-ce que ça pourrait être notre nouvel espace. C'était ça l'idée.
Aslında. Ve onun için işte mahalleden de insanlar geldi, program yaptı. Biz işte reklam için etraftaki çok öyle bilinmeyen yerlerin ne bileyim işte bizim bakkal iyi omlet yapar, onun reklamını yaptık. İşte halıcı geçiyor, seyyar halıcı. Onun ses kaydını aldık. İşte halıcı diye bir reklam girdi araya.
Hello everybody. Donc elles ont pas voulu que ce soit la radio du quartier, la radio de Galata ou la radio de cette cour. Elles ont voulu plutôt que ça reste un espace.
Artı tabii şey önemli, yani çıkartılıyoruz ve şey diyoruz sürekli aralarda girip teaser şeylerde, işte kapıları kapatmayın diyoruz. Şu gördüğünüz kapılar yoktu biz buradayken. Kapıları takmayın, kapıları kapatmayın diyoruz. İşte çamaşır iplerini kesmeyin diyoruz.
Mais elles ont quand même fait de beaucoup d'émissions avec les habitants du quartier. C'était leur dernier mois ici et tout ce qui s'est passé était un peu reflété dans les émissions de la radio.
Şeye, hem reklam olarak hem konu olarak bu mutenalaşmayı da şeyin içine soktuk.
Et aussi il y avait des annonces qu'elle faisait, c'était un peu dans le concept de gentrification du quartier. Et fermez pas vos portes parce qu'il y a deux entrées de la cour et elles n'étaient pas fermées. À l'époque, maintenant elles sont fermées, il faut avoir les clés ou sonner chez quelqu'un, etc.
Et elles ont fait des émissions avec les habitants, les voisins, en leur demandant où est-ce qu'il allait partir, s'il partait, est-ce qu'il devait partir dans leur tête, c'était quoi ce changement de place.
Farklı bir kentsel değişim süreci.
İstanbul'da.
Qu'est-ce que ça représentait pour eux?
İstanbul yapanlardan. Bu arada telefonumuz geldi. Kentin karmaşık yapısıyla uyumlu, tek göz ya da iki oda seçenekleriyle yıkıp yeniden kurabileceğiniz, bir gecede terk edebileceğiniz evler.
Sizin için görünmeyen İstanbul, görünmez İstanbul nedir? Size tanımlar mı?
Sanat bir yerde görünmezi dışarıya çıkarmak için bir uğraştır.
Elle pense que l'art c'est un essai de rendre visible ce qui est invisible.
Buradaki toplantımızın sebebini biliyorsunuz. Söz istiyorum. İstanbul'daki Patagonya sefarethanesinin kasasında bulunan kadar
more powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound.
Look, up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman.
C'est tout clean. C'est une expo de deux artistes palestiniens et israéliens qui se sont transformés en super-héros pour sauver la Palestine.
C'est tout blanc, tout propre.
Marqué par de nombreux vernissages dans les galeries d'art d'Istanbul, mais cette année, mercredi soir précisément, la fête a mal tourné. Une trentaine de personnes a attaqué les invités d'une première galerie, puis d'une deuxième, à coups de barres de fer, de cailloux, de gaz lacrymogène. 5 personnes ont été blessées. Alors cette affaire a été immédiatement médiatisée, elle a fait grand bruit, mais elle reste assez confuse. Que s'est-il passé exactement mercredi soir ?
Bah écoutez, des scènes de panique, hein, lorsque tout d'un coup, dans la douce euphorie des réceptions, des cocktails organisés dans les 5 galeries du quartier voisines entre elles, un groupe de 20 à 30 personnes, plutôt jeunes, ont fondu littéralement sur les convives qui souvent ont discuté sur les trottoirs.
Je m'appelle Zeynep Morali, je suis responsable des projets internationaux et administratrice du centre culturel Dépôt. C'est un centre culturel et de débat situé à Tophane, à Istanbul. Dépôt a ouvert il y a 2 ans, et depuis 2 ans, pour servir de l'alcool, c'est toujours été un sujet de, pas de conflit, mais un peu de négociation avec le quartier. Nous, on a une cour, donc on met toujours des paravents pour pas que les gens voient qu'on boit de l'alcool. Moi, j'étais étonnée que les gens des galeries soient choqués par l'événement. C'était évident. Moi, j'étais bloquée pendant 1 heure dans une galerie. Je faisais un tour, je sortais du boulot et en fait, c'est quand ils ont commencé à attaquer. Nous, c'est juste. J'étais choquée de la violence et de l'organisation, mais pas de l'événement en soi, quoi. J'étais aussi étonnée de la manière dont les gens, après, ont géré la situation en voulant faire un procès. Bon, après, il y a eu beaucoup de choses, notamment le lien avec la police. Parce qu'on a attendu 1 heure, il y a plein de questions. Je trouve que les gens ne sont pas remis en cause non plus par rapport à une société qui est en train de se diviser, par rapport à un quartier qui est très pauvre, qui est en train de se transformer, des questions de société, quoi. En fait, nous, on a un statut un peu particulier. On est ici, c'est un ancien dépôt de tabac. On dépend d'une fondation qui s'appelle Anadolu Culture, qui a été créée par un homme d'affaires, donc Osman Kavala, qui vient d'une famille d'armateurs et qui ont fait un peu commerce dans le tabac. Donc le bâtiment appartient à sa famille. Par rapport aux voisins, nous, et les gens ont travaillé ici. Donc on a un lien historique avec le quartier. Donc nous, on a une position différente par rapport aux galeries qui sont nouvelles, qui ont remplacé des commerces en fait, qui étaient là avant. L'histoire de mémoire par rapport à un lieu est complètement différente. Donc nous, ça n'a pas changé notre position par rapport au quartier parce que on n'a jamais eu de problème, je pense, autant que les galeries commerciales qui se sont ouvertes. Après, oui, nous, dans notre équipe, on s'est posé la question de notre légitimité dans ce quartier-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit développer? Comment articuler? On ne peut pas être un centre social, on ne peut pas être une galerie d'art, donc comment on peut articuler différents projets? Donc oui, on réfléchit après... On n'a pas voulu non plus tout de suite tout changer parce que je pense que c'est des choses qui doivent vraiment se faire sur du long terme. Et on a eu beaucoup de propositions, mais on les a trouvées trop légères, quoi. Parce que faire tout d'un coup un workshop avec des enfants, voilà, si on ne l'inscrit pas dans un processus qui va vraiment changer quelque chose dans leur appréhension de l'art ou... mais pas juste faire une expo des dessins et puis voilà, comme ça pour se donner bonne conscience. Toutes les structures, centres culturels sont financées par les grandes familles turques. Les artistes, du coup, sont plus dans des logiques d'être montrés dans des lieux privés, de faire partie de collections. On va dire qu'il y a des artistes qui travaillent sur des problèmes de la société en Turquie, mais plus sur des événements précis. Par exemple, quand il y a eu un Sulu Kule... Donc l'expulsion des gens, il y a des artistes qui ont travaillé sur l'espace, quoi, sur la mémoire avec les enfants pour un peu documenter ça. Nous à Depo, on est trois, donc on peut pas tout faire. Le lien qu'on a avec le quartier, on peut critiquer, dire qu'on n'est pas assez en lien avec. C'est un peu ambigu aussi la situation de cette gentrification de ce quartier. S'il y a des gens qui sont quand même propriétaires d'appartements aussi du quartier, qui aussi font de la spéculation sur le fait qu'il y ait des galeries, que les gens maintenant s'intéressent un peu à ce quartier, viennent habiter et tout. Donc, bien sûr, il y a une question d'argent, mais après, mafieux, dans le sens... Je pense pas, mais oui, de bakchiche sur des choses. Je pense pas que ce soit le fond du problème. Moi, je pense que c'est vraiment deux Turquies qui avancent en même temps, qui sont très différentes et qui se sont affrontées avec des codes différents. Les Turcs blancs, comme on les appelle, qui voyagent, qui parlent des langues étrangères, qui représentent une culture très européenne. Et voilà, une Turquie traditionnelle avec ses valeurs, d'autres valeurs. Après, oui, peut-être c'est plus spécifique à Istanbul parce que c'est la capitale un peu plus culturelle où les gens viennent. C'est la ville la plus visitée, mais Antalya ou j'imagine, ou dans d'autres villes, Izmir ou Ankara, il y a sûrement aussi, peut-être pas les mêmes problèmes, mais quand même aussi une différence.
Pérouse 2 sur Tophane.
Très près de Galata, il y a un autre quartier qui s'appelle Tophane, dans lequel un événement, il y a quelques mois, est intervenu, l'attaque d'une galerie. Quel regard vous portez sur cet événement?
Alors, bon, y a des choses qui sont très troubles dans l'histoire. C'était un réseau en fait, de galeries qui se constituait. Et c'était le premier moment où ce réseau se donnait à voir par le biais de l'inauguration donc simultanée de trois expositions dans trois lieux différents. La lecture qui en a été faite me semble un peu courte, hein, à savoir une espèce de choc des modes de vie, d'intolérance. Alors, derrière, on aurait quelque chose d'assez organisé, lié à un parti politique, hein, des organisations politiques d'extrême droite, hein, plutôt, et lié à un homme un peu mafieux, hein, qui a des liens avec cette organisation politique, hein, et qui instrumentalise bien les réseaux, hein, parce qu'on est dans une société de réseaux, et notamment les réseaux d'origine, hein, et organiser hein, cet événement. En gros, les galeries n'étaient pas prêtes à payer ce qu'on leur demandait, qu'elles payent ce que ce petit mafieux, quoi, leur demander de payer. En fait, ces événements de Top Hané me semblent très, très intéressants pour saisir les contradictions en fait, qui travaillent l'AKP à l'heure actuelle. Parce que l'AKP joue sur les deux registres. Il veut développer des activités culturelles, internationalisées, etc., pour promouvoir Istanbul à l'échelle internationale comme grande place culturelle. Mais de l'autre côté, pour mobiliser des voix, il joue sur des réseaux, sur des registres qui sont ceux des valeurs nationales, ceux des références religieuses, etc. Donc, on a une position de classe qui est claire, et en fait une exclusion de fait d'une bonne partie de la population, mais qu'on essaye d'inclure symboliquement encore en convoquant la communauté nationale ou la communauté des croyants et en jouant sur le registre national, le registre de la foi commune et sur le mythe quoi, de la communauté nationale ou la communauté religieuse. Mais c'est pas possible de jouer sur les deux tableaux plus longtemps, à mon avis. Il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de moments où ces contradictions sont flagrantes. Quoi.
Yani bir yandan belli bir kesime hitap edecek şekilde davranırken aslında halkın büyük bir kısmını dışlamış oluyor. Fakat daha sonra milli ve dini camiaya çağrılar yaparak sembolik de olsa onları kendine dahil etmeye çalışıyor. Ama bence artık bu iki koldan oynamak mümkün değil. Çünkü artık bütün zıtlıkların gün gibi ortada olduğu yerler ve anlar çok daha fazla.
Terör örgütü PKK'nın yayın organı Roj TV'nin kapatılması için Türkiye yıllardır çaba harcıyor.
İstiklali bir gezersiniz, bir de Hacamedi gezersiniz. İki farklı yer. Yani bir yerde alabildiğine ihtişamlı bir yaşam, bir yerde alabildiğinize yoksul bir yaşam.
Lorsque vous allez à Taksim, à İstiklal, vous avez une visibilité des choses tout à fait différentes que lorsque vous alliez, par exemple, du côté de Hacamet, dans les quartiers un peu plus populaires.
On avait des voisins arméniens à Harbiye. Et c'était drôle parce qu'ils venaient de l'Est de Turquie, donc ils venaient d'un village kurde. Donc maman et papa, entre eux, ils parlaient kurde. Avec les enfants, ils parlaient turc. Mais les enfants allaient dans une école arménienne, donc ils parlaient arménien entre eux. Donc dans la maison, il y avait trois langues. Mais les parents parlaient pas arménien, et les enfants parlaient pas kurde.
Ah oui, du coup...
Donc les parents, quand ils veulent que les enfants comprennent pas...
Voilà. Chacun avait son petit espace pour combiner les choses. Et...
En fait, il a été assassiné.
Qu'est-ce qu'il a,
Ramzi? En sortant du boulot. En allant, en rentrant.